Du coup, je vais baisser ça. Hop. Bonjour à tous. Donc, comme Jean-Louis vous l'a dit, je m'appelle Guy Lacassagne, je viens de l'église de Toulouse. Et vous avez d'ailleurs les salutations des frères et sœurs de l'église de Toulouse. On n'a pas tout à fait le même accent, mais on est quand même dans le sud de la France, donc on se comprend. Je fais aussi partie du pôle développement, c'est pour ça que je suis là ce matin. Le pôle développement, donc c'est une division dans notre union qui a été créée pour aider les églises à mettre en place des mouvements de développement ou des mouvements d'implantation, etc. Donc moi j'en fais partie. Et pourquoi je suis là aujourd'hui particulièrement? C'est parce que il y a 3-4 ans, lors d'un synode, je me suis rendu compte que dans nos églises, on avait besoin de liens les uns avec les autres. Alors dans l'église, mais nous faisons partie d'une union d'églises, d'une union de chrétiens. Et il y a d'autres unions aussi en France et puis sur cette planète. Et bénissons-les aussi, la parole de Christ est annoncée partout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de liens et j'ai eu à cœur de visiter les églises sans pasteur, alors de ma région, c'est-à-dire autour de Toulouse, Grande Toulouse, Grande Occitanie. J'ai été jusqu'au nord d'Angoulême quand même. Et puis, chemin faisant, ça s'est développé. J'ai été jusqu'à Strasbourg, où là, ils n'ont pas du tout l'accent. Et, enfin, pas le nôtre, en tout cas. Et là, ben, au bagne, l'occasion a fait le larron, et je suis ravi de venir ici visiter alors, cette église qui est impressionnante quand même. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ouais, tiens, quand même, c'est bizarre. Et puis, on rentre et on voit toutes ces salles, tout ce qui est à votre disposition. C'est très chouette, très belle église. Je me sens très très bien. Et accessoirement, depuis 6 mois, je fais partie de la commission synodale. Alors je représente le pôle développement à la commission synodale. Eh bien, sachez que toutes les églises, mais l'église d'Aubagne est au cœur parfois de nos discussions à la commission synodale. Vous n'êtes pas ni oublié, ni dans un coin sous la poussière. Et voilà, je suis là pour vous amener aussi les salutations et l'amitié fraternelle et en Christ des membres de la commission synodale. Bien, vous m'avez assez entendu parler, maintenant on va parler de la parole de Dieu, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et le texte, enfin le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est Dieu n'est pas avec nous. Ouais, hein, c'est nous qui sommes avec lui. Ah, ça va mieux. Alors, nous partons pour un voyage dans le temps. Ça va pas être très facile pour la personne qui s'occupe des textes affichés, je préviens. Et je vous propose une promenade répartie sur 5 chapitres du livre de Josué, très exactement du chapitre 2 au chapitre 7. Alors avant de commencer, je précise que je me suis inspiré de deux études d'un monsieur qui s'appelle Olivier Randle, qui est un ancien prédicateur laïque de l'église baptiste de Clermont-Ferrand, et puis d'un pasteur de notre union, d'une pastrice de notre union, qui est aujourd'hui... Anne-Claire, qui est aujourd'hui à Poitiers. Alors, nous allons étudier 3 passages qui démarrent dans Josué chapitre 2 jusqu'à Josué chapitre 7, 26. Et étant donné la longueur du texte, on va évidemment pas tout lire, sinon on va faire un culte jusqu'à 19h. Et j'ai choisi de vous raconter ça sous forme d'une histoire. Et nous sommes à peu près en 1100 avant Jésus-Christ, et les Hébreux finissent leurs 40 ans de visite du désert, et arrivent devant le Jourdain, devant enfin la terre promise. Josué a pris la suite de Moïse et est devenu le chef du peuple hébreu. Il est d'un côté du Jourdain et de l'autre côté du Jourdain, il y a la ville de Jéricho, la première ville du pays de Canaan que Dieu a promis, et il va donc falloir attaquer et prendre la ville de Jéricho. Alors la ville est très imposante à l'époque, avec de très hautes murailles, de très fortes murailles. Et Josué, avant d'attaquer, en général malin, se dit, je vais quand même essayer de voir quelles sont les défenses de Jéricho, qu'est-ce qui se passe, quel est l'état d'esprit. Et il envoie 2 espions, c'est les ancêtres du Mossad probablement, il les envoie 2 espions reconnaître la ville. Et ben, ces espions ne doivent pas être très très doués, car ils sont tout de suite repérés, et le roi de Jéricho envoie ses services de contre-espionnage à leur trousse. Ils ont été localisés dans une auberge dont la patronne, une certaine Rahab, prononcez-le comme vous voulez, exerce un travail qui ne se limite pas apparemment à nourrir et loger ses clients, puisque le texte nous dit clairement que c'est une prostituée. Rahab va-t-elle livrer 007 et 008? Non, au contraire, elle les cache sous un tas de linge. Sous son toit, les toits en terrasse, vous savez qu'on trouve dans les maisons encore dans les pays chauds au Moyen-Orient. Elle les cache et en plus elle donne de mauvaises indications aux soldats du roi pour les éloigner et les envoyer sur une fausse piste. Et le stratagème fonctionne, car les soldats foncent logiquement vers le Jourdain, là où se tient le camp des Hébreux. Et voilà que le soir, les portes de la ville sont fermées. Nos deux espions sont coincés. Coincés? Non. Car Rahab, encore elle, dont la maison est intégrée dans la muraille, les fait descendre par la fenêtre, un peu comme Paul va descendre d'une muraille 1000 ans plus tard à Damas. Elle leur donne aussi une leçon de stratégie. Elle leur dit: n'allez pas vers le Jourdain, puisque les soldats du roi sont partis vers le Jourdain, mais attendez 3 jours, le temps que les soldats reviennent à Jéricho. Et c'est exactement ce qui va se passer. À la fin de leurs aventures, nos deux espions reviennent voir Josué et sont dithyrambiques sur le sort de la bataille à venir. Ils disent, le texte nous dit, certainement, l'Éternel nous livre tout le pays. Pourquoi Rahab agit-elle ainsi? Que s'est-il passé dans sa tête pour prendre ces risques insensés, établir des plans d'évasion, tromper les soldats de son roi? Alors nous avons une première explication, là je vais aider nos amis qui affichent le texte, en lisant dans le chapitre 2 les versets 9 à 11 que nous allons lire ensemble. Donc c'est Rahab qui parle et elle dit aux espions: je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont en panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sac les eaux de la mer, a mis à sec, pardon, les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. En haut, dans le ciel et ici-bas sur la terre. Comment cette femme, prostituée, étrangère, habitant une ville ennemie du peuple de Dieu, peut-elle exprimer cette foi? Rahab cumule presque tous les atouts pour être rejetée par Dieu. Pour tout vous dire, je ne suis pas bien sûr que nous l'accueillerions à bras ouverts dans nos églises. Comment comprend-elle ce qu'elle dit? Alors nous avons une piste dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Jésus demande à Pierre qui il est. Et Pierre répond: tu es le Christ. Et Jésus lui dit alors: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous avons une autre piste dans l'évangile aux Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, pardon. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Cette Rahab, qui aurait dû être rejetée, ce personnage insignifiant, sera cité une deuxième fois dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par ses œuvres et non pas seulement par sa foi. Ainsi, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par ses œuvres pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin? C'est sa foi agissante qui passe par l'action, malgré les risques, et qui se traduit en œuvre qui l'a sauvée. Ça, c'est notre premier personnage ce matin. Nous allons en rencontrer trois. Et maintenant, on s'attaque au deuxième. Le deuxième personnage de notre voyage, nous faisons un bond au chapitre 5, au verset 13. Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche et lui demande: « Est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme répond: « Ni pour les uns, ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et lui dit: Je suis ton serviteur, qu'est-ce que tu veux de moi? Le chef de l'armée du Seigneur lui répond: Enlève tes sandales, en effet tu te trouves dans un endroit saint. Et Josué obéit. Qui est cet étrange personnage qui se présente comme chef de l'armée du Seigneur? En principe, c'est Josué, le chef de l'armée du Seigneur. Il est certain que lui, Josué, comprend tout de suite à qui il a affaire. Il a affaire à plus grand que lui et il se prosterne immédiatement. Et dans le chapitre 6, toujours de Josué, au verset 2, ce personnage est identifié comme Dieu lui-même. En effet, il est écrit: Le Seigneur dit à Josué, Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. C'est probablement le même genre de personnage contre qui Jacob a lutté ou que le prophète Osée décrit comme un ange. Ce dont nous pouvons être certains, c'est que lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Il indique alors à Josué comment prendre la ville de Jéricho. Le peuple doit faire le tour des remparts avec une avant-garde, une arrière-garde, et au milieu, les prêtres qui soufflent dans des cornes de bélier en portant le coffre de l'Alliance. Ils doivent tourner une fois pendant 7 jours, et le 7e jour, ils doivent faire 7 fois le tour, et au bout du 7e tour, ils doivent pousser le cri de guerre. C'est un siège vraiment très musical, et vous voyez, amis musiciens, le rôle que vous avez, vous pensiez être tranquille, mais non, en fait, on a besoin de vous. Un siège très musical, et ça fonctionne, évidemment. Les murailles de Jéricho s'écroulent sur elles-mêmes. Dieu donne l'ordre à Josué de vouer la ville à l'interdit. En clair, les Hébreux doivent tuer tout le monde. Tout détruire et les métaux précieux doivent rentrer dans le trésor de Dieu. Comment les habitants de Jéricho ont-ils vécu ce siège? Ont-ils commencé à rire en voyant les Hébreux faire le tour des murailles en jouant de la musique? Mais le 7e jour, au moment où les Hébreux ont poussé leur cri de guerre, les murailles se sont effondrées et les défenseurs, ceux qui ont survécu, n'avaient plus rien pour se défendre et se cacher. Et tout le monde obéit scrupuleusement à l'ordre de Dieu donné par Josué. L'armée israélite tourne autour des murailles pendant une semaine, les murailles s'effondrent, toute la population est massacrée, sauf Rahab et sa famille. Tout le monde. Tout le monde, non. Nous découvrons notre troisième personnage au chapitre 7 de notre voyage biblique. Il s'appelle Akan. Il n'est pas très connu, A-K-A-N. Et Dieu se met en colère contre Akan car il s'empare de quelques biens alors que c'était scrupuleusement interdit. Qu'a-t-il trouvé? Des pièces, de l'or, on ne le sait pas, mais il n'a pas résisté. Il glisse tout ça rapidement dans son manteau. Pourtant, plusieurs fois, depuis 40 ans quand même, Dieu a montré clairement qu'il subvenait aux besoins du peuple. Rien à faire. L'appât du gain. La première sanction ne se fait pas attendre. À la bataille suivante, après celle de Jéricho, pour prendre la ville de Haï, la bien nommée, beaucoup plus petite et moins bien défendue que Jéricho, les Hébreux subissent une cinglante défaite. Haï. Josué, qui a bien compris qu'il se passe quelque chose, il se tourne vers l'Éternel avec force démonstration. À l'époque, on se jetait de la cendre sur la figure, on mettait un habit de deuil. Il comprend que cette défaite n'aurait pas dû se produire. Et Josué, chapitre 7, les versets 10 à 15, je ne les lis pas, Dieu explique les raisons de sa colère et comment y remédier. Un membre du peuple de Dieu a désobéi. C'est comme si tout le peuple avait désobéi. La désobéissance, c'est quelque chose de très important pour notre Seigneur. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden car ils ont désobéi. La royauté a échappé à Saül car il a désobéi. Il faut donc là trouver le coupable et le punir. Akan est démasqué. Il confesse sa faute et le jugement de Dieu le frappe. Akan et tous les siens sont tués et leurs biens brûlés. Akan s'est attiré le sort de Jéricho. En s'appropriant quelque chose qui devait être détruit, il s'est attiré la punition qui frappait la ville. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ce survol de l'entrée des Hébreux sur la terre promise. Tout d'abord, en regardant l'ensemble de cette histoire, nous assistons à un paradoxe. La prostituée cananéenne est en vie, justifiée, et l'Israélite est mort, condamné. Rahab a cru et elle a agi en conséquence, alors qu'Acan n'a pas vraiment cru. Et Rahab, non seulement elle vit, mais elle fera partie de la généalogie du roi David, et par là même de celle de Jésus. Comme nous l'avons vu, elle sera citée deux fois en exemple dans le Nouveau Testament. Et dès le début de l'histoire d'Israël, 40 ans après l'Exode, Dieu nous indique ce qui sera le fil conducteur de l'Évangile. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, quelle que soit la gravité de tes actes, tu peux être sauvé si tu mets ta confiance en Dieu. Et il y a un avertissement sévère. Quelle que soit ta généalogie, quel que soit ton service, ton église, tout ce que tu as ne te servira à rien si tu ne mets pas ta foi et tes œuvres dans le Seigneur. Et il y a un deuxième enseignement encore, plus profond, que nous trouvons dans les premières paroles de cet ange venu parler à Josué. Es-tu avec nous ou avec les autres? Dieu répond, je ne suis ni avec vous, ni avec les autres. Dieu n'est pas dans un camp. Il n'est pas avec l'un, il n'est pas avec l'autre. Et ce qui est important, c'est que nous soyons dans le camp de Dieu. C'est important de le comprendre parce que nous sommes en permanence sollicités dans notre monde pour être pour ou contre. On est en période électorale, nous allons bientôt nous prononcer pour élire un maire. Eh bien, je vous annonce que Dieu n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il n'est pas du centre. Il est le Dieu de l'infini, il est le Dieu puissant, il est le Dieu qui a créé le monde. Et à vouloir mettre Dieu dans notre camp, on en fait quelqu'un de proche, et c'est bien, quelqu'un qui nous accompagne, quoi que nous fassions. Mais quelque part, ce n'est plus le Dieu de l'infini qui dirige toute chose. Alors il ne s'agit pas non plus de ne pas choisir du tout. Par exemple, eh bien, depuis quelques années, il y a un conflit qui déchire l'Europe. Il y a un autre conflit sur la terre de Gaza. Il y a des conflits en Afrique. Des civils innocents sont massacrés. Nous sommes effrayés par les menaces qui pèsent sur nous. Régulièrement, il y a des tas de gens qui parlent dans des télévisions pour nous menacer de l'apocalypse nucléaire. Nous sommes inquiets devant les conséquences économiques, sociales que nous subissons. Nous pouvons considérer donc que dans tous ces conflits, il y a un agresseur, il y a un agressé, nous avons le droit d'avoir une opinion. Mais sans oublier que notre Dieu n'est ni avec l'un, ni avec l'autre. Dieu est Dieu. Dieu dirige et Dieu connaît toute chose. Dieu est un Dieu de justice. Et notre place, c'est d'être avec lui. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous nous sentons bien petits devant ta force, ta puissance. Tu es le Dieu créateur. J'aime bien ce verset du psaume 8 qui nous dit « Lorsque je regarde l'univers, combien je me sens petit. Tu as créé les étoiles, le ciel, et tu nous as créés, nous, et tu fais attention à nous, et tu t'es penché sur nous jusqu'à envoyer ton Fils uniquement pour nous sauver, accomplir le plus grand des sacrifices. » Et Seigneur, nous voyons en lisant ta parole combien tu es grand, car tu ne décides pas en fonction de critères humains. Tu ne décides pas qui est bon, qui est juste, parce qu'un tel est riche, beau, intelligent, qu'il fait le bien ou pas. Non, tu décides en fonction de la justice, de la foi. Tu regardes au cœur, au plus profond d'entre nous. Mais tu es aussi un Dieu qui est bon. Parce que tu nous aimes tellement que tu as sacrifié ton Fils. Tu nous aimes tellement que tu veux que nous prions pour nos ennemis. Tu nous aimes tellement que tu veux sauver le méchant. Tu aimes ta création, Seigneur. Et nous voulons te dire humblement que nous voulons être ceux qui font partie de cette création. Nous voulons faire partie de ceux qui t'aiment, Seigneur, au-delà de tout. Nous voulons faire partie de ceux qui se placent devant toi pour dire que tu es la chose la plus importante de notre vie et que nous t'aimons, notre Dieu. Amen.